France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. D'un côté, il y a la high-tech, de l'autre, une réponse est donnée par la low-tech. La high-tech domine le marché depuis longtemps avec sa haute technologie, synonyme d'automatisation, de robotisation, de numérisation et bien sûr de consommation. Or, depuis plusieurs années, des adeptes de la réduction des déchets, de l'éco-construction, de la production raisonnée, des énergies alternatives s'engagent dans une voie durable, humaine et écologique. Vous les entendez tous les jours quasiment chez nous dans les carnets de campagne sur France Inter. Et c'est à eux qu'Adrien Bellet va consacrer son prochain documentaire après avoir réalisé un premier film qui s'intitulait « L'éveil de la permaculture » qui a enregistré 200 000 spectateurs en salle. Arrivé au terme du tournage, Adrien va répondre à nos questions dans un petit moment. Mais tout d'abord, nous allons à Lyon rejoindre un pôle très actif du zéro déchet. Une manière de souligner aussi notre participation avec les carnets de campagne à la low-tech.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Au petit Lois, bonjour.
Bonjour.
Je dis bien Aube, comme le département, mais comme l'Aube aussi, l'Aube, demain, dès l'Aube. Vous êtes responsable du pôle Mon commerçant m'emballe durablement. Vous êtes salarié à l'association Zéro Déchet de Lyon, qui est donc une antenne de Zéro Waste France nationale.
C'est ça. On existe à Lyon depuis 2015, en association depuis 2016, et on a pour but d'aider toute personne à tendre vers le zéro déchet sur le territoire de la métropole de Lyon.
Ouais. Alors quand on dit mon commerçant zéro déchet, ça veut dire, par exemple, c'est une épicerie qui vend des produits en vrac?
Par exemple, mais on veut s'adresser à tous les commerçants, alimentaires et non alimentaires, pour réduire tout type de déchets, alors, et aussi aux clients. Ouais.
Comment faites-vous? Parce que aujourd'hui, d'abord, il y a le plastique interdit, donc on a des sacs en papier, on a des différentes choses, différents emballages. Comment vous procédez?
Alors, on essaye de sensibiliser tout le monde, donc les commerçants et les clients, pour réduire leurs déchets. Donc, pour les commerces alimentaires, ça peut être venir avec ses propres contenants. Mmh. Maintenant, avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire, c'est obligatoire pour les commerçants d'accepter les contenants des clients.
Et c'est valable pour tout type de commerce? Quels sont les commerçants que vous arrivez à toucher en premier qui sont sensibles à la démarche?
Alors, généralement, les plus sensibles, c'est les commerces alimentaires, parce que pour eux, c'est un coût énorme, les emballages. Mais ça peut aussi être pour un fleuriste, ça peut être pour tout type de commerçant.
Ouais. Alors, j'imagine pour un fleuriste, ça veut dire quoi, une démarche durable?
Par exemple, ça peut être autoriser ses clients à ne pas avoir de suremballage. Donc, si on peut acheter un bouquet sans avoir d'emballage plastique autour, mais en allant plus loin dans la démarche, ça peut aussi être faire appel à des fournisseurs de fleurs locales et durables.
Oui, ouais, parce que j'allais dire, s'il n'y a pas d'emballage, mais que les fleurs sont importées d'Amérique latine,
il
y a encore un souci. Et pour les restaurateurs, vous avez aussi un discours type?
Pour les restaurateurs, c'est pareil, surtout pour la vente à emporter. Ils peuvent soit mettre en place la consigne chez eux, avec leur propre flotte, soit accepter que les clients amènent leur propre boîte.
Oui. Comment vous les sensibilisez, c'est un terme qui revient souvent, mais que vous les informez des possibles et surtout de l'évitement des ordures ménagères qui sont quand même phénoménales. Chaque Français produit 590 kilos de déchets par an, pour la plupart enfuis ou brûlés. Comment vous arrivez à convaincre tout ce monde-là?
Bah déjà en leur en parlant, parce que c'est vrai, ces chiffres-là sont très importants. À Lyon, c'est aussi 54 kilos de déchets d'emballage par habitant et par an. Mmh. Donc quand on se rend compte de ces chiffres, on a envie d'agir. Et par ailleurs, pour les commerçants, une fois qu'on les a sensibilisés, on les référence avec un macaron qu'on impose sur leur vitrine pour permettre aux clients de voir qui sont les bienvenus pour réduire leurs déchets. Et après, on les référence sur nos réseaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ainsi que sur notre site internet via une cartographie nationale qui est remplie par toutes les antennes de Zero Waste France.
Ouais.
Alors, et qui permet comme ça aux clients de pouvoir continuer à faire leurs courses sans emballage, chez eux, mais aussi en vacances.
Mais Aube, informer les clients, c'est les commerces, les restaurateurs, c'est une chose, mais il s'agit aussi d'informer les consommateurs eux-mêmes.
Ah oui, ça aussi. Il y a une grande part de sensibilisation avec notamment la tenue de stands, d'événements, et on va beaucoup à leur rencontre pour leur montrer que c'est possible et que c'est facile aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part des commerçants de perdre de la clientèle en jouant cet exercice qui va déplaire à certains consommateurs ou clients?
Alors d'ordinaire, il y avait plutôt une crainte des commerçants de peur qu'il y ait un problème d'hygiène. Ça, c'était avant, mais maintenant, avec la nouvelle loi, c'est le client qui est responsable de ses achats. donc il ne peut plus rien y arriver. Et aujourd'hui, il se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui sont en demande de ça. Donc, il voit que c'est plutôt un bénéfice pour lui.
Et pour faire passer le message à Lyon, à la métropole lyonnaise, vous avez des ambassadeurs et des ambassadrices.
C'est ça. On compte sur... on a à peu près 300 ambassadeurs et ambassadrices. Donc, c'est des bénévoles qui sont formés pour pouvoir répondre aux questions des commerçants. Mais on veut toujours en avoir davantage.
Bien sûr. Et aujourd'hui, combien de commerçants ou d'enseignes, de restaurateurs, ont accepté de jouer le jeu?
Aujourd'hui, il y en a plus de 400 sur tout le territoire de la métropole.
Chaque ville peut participer à cette opération. Est-ce que dans chaque ville, il y a une association zéro déchet?
Alors, pas forcément dans chaque ville, mais il y a toujours des antennes assez proches. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de Zero Waste France ou alors sur le site des antennes qui sont les plus proches de chez vous.
Il y a une publication qui existe sur les réseaux, ainsi qu'une carte virtuelle nationale qui permet de devenir consommateur ou consommatrice et aussi ambassadeur ou ambassadrice.
Oui, pour ça, il suffit par exemple à Zéro Déchet Lyon d'aller sur notre site et on peut s'inscrire soit directement en contactant mon commerçant M'emballe durablement, soit en contactant l'association de façon plus générale si on veut devenir bénévole.
Le site...
On a aussi beaucoup d'autres pôles d'activité.
Oui, et le site c'est zérodéchetlyon.org. Merci Aube.
De rien.
France Inter, carnet de campagne.
Pour suivre l'itinéraire cette semaine du jeu des 1000 euros en Vendée, je vous transmets des informations sur le CPIE Sèvres et Bocage de la Flosselière. À chaque mention des CPIE, je souligne quand même les missions essentielles couvertes par ces centres permanents d'initiatives pour l'environnement. Premier intérêt, ils naissent grâce et avec les habitants. Ensuite, ils créent des emplois et surtout, ils agissent concrètement au profit de l'environnement. Le CPIE Sèvres et Bocage compte 400 adhérents, 200 bénévoles, 13 salariés et 20 000 usagers. Installés à la maison de la vie rurale à Sèvremont, le centre de Vendée épouse la même logique que les autres CPIE, à savoir comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux de son lieu d'implantation, partager des informations, dialoguer avec tous et puis surtout expérimenter des solutions avec les partenaires locaux, à commencer par les élus. Plus précisément, c'est inclure par exemple en Vendée des éléments de la trame verte et bleue dans les programmes d'urbanisme, c'est établir une stratégie alimentaire locale, c'est reconstituer des populations d'arbres, c'est mettre en place des pépinières de fruitiers ou encore veiller à la qualité de l'eau et à son utilisation. Bref, ces centres prouvent que conserver et revaloriser un patrimoine, ce n'est pas le mettre sous cloche, mais c'est l'adapter à nos conditions de vie bouleversées par le réchauffement climatique et des pratiques de production et de consommation obsolètes. Il y a un site, comme toujours, la référence est donnée à nos pages émissions sur France Inter. .fr à notre page Facebook. Adrien Belay, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé une campagne de financement que nous avons répercutée d'ailleurs en prévision du financement de votre deuxième documentaire. Le premier, c'était l'éveil de la permaculture en 2017, 200 000 spectateurs, bravo. Vous êtes parti sur un long métrage consacré à la low-tech, alors sous-titré « L'ingéniosité du système D ». On va expliquer tout cela, mais d'abord un mot. L'éveil de la permaculture, qui a eu un franc succès, a été conçu sur vos fonds propres.
Oui, tout à fait. C'est une démarche personnelle à l'origine. Et l'idée, c'était d'autoproduire un film. Disons que le film s'est fait chemin faisant. C'est en découvrant... l'univers même de la permaculture que l'idée du film a émergé et c'est au gré des rencontres et de ma progression dans l'univers de la permaculture que j'ai tourné les séquences et j'en ai fait un film, donc c'est quelque chose voilà qui était assez personnel et presque un film aussi de copains puisque j'ai monté ça avec un ami qui s'était lancé dans la permaculture à l'époque.
Ouais. La low-tech, c'est pas du bricolage comme certains pourraient le penser, c'est quoi? D'abord, ce sont des techniques de fabrication, de production, de mode de vie qui touchent l'habitat, la santé, l'eau, l'énergie, l'hygiène, l'alimentation, qui permettent d'abord d'éviter les dépenses énergétiques qui sont en accord aussi avec l'environnement. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est sur votre matériel de tournage et votre même méthode de travail, est-ce que vous êtes low-tech?
Ah oui, bah alors là c'est très compliqué. On s'est posé la question à l'étape de l'écriture d'adapter les outils de production cinéma à la low-tech et là on s'est un peu cassé les dents parce que tout ceci est bardé en effet d'électronique, de capteurs et de choses infiniment petites. Alors disons qu'on l'a fait sobrement en limitant les transports, les trajets, en tournant en équipe réduite. Mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé le vice jusqu'à jusqu'à adapter les outils. Et c'est vrai que nos caméras, nos drones sont parfois un petit peu antinomiques avec la thématique du film.
Vous n'êtes pas de la génération d'une équipe de cinéma qui est parachutée, arrive à un endroit avant de repartir le lendemain ou deux jours plus tard. Vous avez pris des contacts, il y a eu une immersion, vous avez suivi en détail. C'est des personnes, entre autres 8 acteurs du monde des low-tech, que vous avez suivis pendant plusieurs mois.
Oui, tout à fait. C'est une démarche, je dirais, de documentariste. C'est-à-dire que plus d'un an à l'avance, je prends contact avec ces personnages, je tisse une relation avec eux au long cours, et puis on discute, on apprend à se connaître. Et en effet, le tournage se déroule sur plusieurs journées. On vient parfois jusqu'à presque une semaine partager le quotidien avec la personne que l'on suit. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans la complicité et de comprendre un peu plus précisément, je disais, ces enjeux personnels.
Oui. Depuis, évidemment, demain, Cyril Lion, Mélanie Laurent, il s'est passé beaucoup de choses. C'était pas le seul film, mais il a réveillé les consciences. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de productions, de films de fiction, ou docu-fiction, ou de documentaires, comme vous, qui s'attachent au terrain, qui s'attachent aux personnes que l'on ne connaît pas, sous une forme réaliste, directe. Est-ce que on ne risque pas de se lasser? Je pense aussi aux fictions sur le monde paysan, elles sont de plus en plus nombreuses.
Bon, alors oui, c'est sûr qu'il y a une grande diversité de productions autour des thématiques écologiques. Alors, pour ne pas se lasser, il faut qu'il y ait un point de vue, je dirais, unique sur un sujet. Par chance, la thématique des low-tech n'a pas forcément encore été abordée, ou en tout cas n'a pas fait l'objet d'un documentaire à part entière. Et je dirais que là où il faut être exigeant, c'est arriver à renouveler le point de vue. Et donc, moi, j'ai essayé, autant à l'étape de l'écriture que du tournage, d'amener un petit peu de fraîcheur et d'innover un petit peu dans la forme. Puis je dirais aussi que là où on ne se lasse pas, c'est que ce sont des films qui ont besoin d'être ancrés dans le réel, comme vous disiez. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de parler un petit peu, de dialoguer avec le réel. Et faire un film, par exemple, sur la permaculture en 2014 ou un film sur les low-tech en 2020, il y a déjà eu du changement. On va dire que le contexte actuel n'est plus tout à fait le même. Et donc, je pense que c'est nécessaire de toujours rappeler un petit peu, aux spectateurs, l'émergence de ces nouveaux concepts, de ces nouvelles démarches. Et les remettre au goût du jour.
Aujourd'hui, on fait un teasing avec vous parce que le film est en voie d'achèvement, en tout cas le tournage, avant la production, la post-production et la sortie l'année prochaine. Donc on a pris une longueur d'avance. S'il y avait simplement une surprise, enfin, au cours de ce tournage, une surprise qui vous a marqué, que vous n'attendiez pas.
Si j'avais quelque chose à retenir de ce tournage, c'est parfois la sincérité avec laquelle m'ont parlé certains des personnages, même face à la caméra. Finalement, on dévoilait un peu mieux leur personnalité, parfois leur radicalité. Et je crois que ça, c'était la bonne surprise, globalement, au cours du tournage. C'est que ce lien que j'ai créé avec ces personnes a permis de mettre au jour leurs convictions intimes. Voilà. Mmh.
Les acteurs de la vie sont de bons acteurs pour un documentaire comme celui de low-tech. Low-tech, trait d'union, lefilm.com. Bonne suite pour cette belle aventure. Merci Adrien.
Merci à vous.
Une question récurrente, comment sauver les océans? C'est une question qui sera débattue et je vous propose de noter ce rendez-vous déjà sur vos tablettes ou dans vos agendas. C'est le Festival des Aventuriers, 6e édition qui aura lieu du 5 au 10 octobre à la Cité de la Voile. Éric Tabarly à Lorient, l'invité d'honneur sera Jean-Louis Etienne. Donc le fil rouge, comment sauver les océans, avec une ouverture hors les murs du festival au Théâtre de Lorient le mardi 5 octobre à 20h, avec une rencontre autour des femmes océanographes sur les traces de la grande photographe Anita Conti, et puis l'inauguration le jeudi 7 du festival à la Cité de la Voile, une rencontre avec Jean-Louis Etienne, et puis les journées consacrées aux initiatives maritimes. Quel projet pour demain, 8 octobre, le samedi et le dimanche, ça se poursuivra avec des rencontres, des films, des animations, des expositions. Comment sauver les océans, donc du 5 au 10 octobre à Lorient.